Chapitre 12. Organisé pour servir le Dieu de paix. Contenu du chapitre. Jéhovah organise progressivement ses serviteurs. Paragraphes 1 et 2. Question. Quel changement a connu la tour de garde en janvier 1895 et comment les frères ont-ils réagi? Fervent étudiant de la Bible, John Bonnet est surpris quand il découvre le numéro de janvier 1895 de la tour de garde. Une nouvelle couverture audacieuse montre un phare dont le faisceau transperce les ténèbres au-dessus d'une mer en furie. À l'intérieur, la revue titre « Notre nouvelle présentation ». Enthousiasmé, frère Bonnet écrit à frère Russell « Heureux de voir la tour avec si fière allure, voilà qui me plaît ». John Brown, un autre fidèle étudiant de la Bible, dit de cette couverture « Elle est saisissante. La tour est battue par les flots et la tempête, mais ses fondations sont solides. » Cette nouveauté est la première de l'année, mais pas la dernière. Le mois de novembre apportera une autre évolution majeure, et, curieusement, il sera aussi question de mer déchaînée. Paragraphes 3 et 4. Question. Quelle situation inquiétante la tour de garde de novembre 1895 a-t-elle signalé et quel changement décisif a-t-elle annoncé? Un long article publié dans l'édition anglaise de la tour de garde du 15 novembre 1895 met le doigt sur une situation inquiétante. Il règne au sein des étudiants de la Bible un climat houleux qui menace la paix de leur organisation. Les frères se querellent de plus en plus pour savoir qui, localement, doit tenir les rênes de la congrégation. Pour les aider à comprendre comment remédier à cette rivalité qui sème la division, l'article compare l'organisation à un navire et reconnaît honnêtement que les frères qui sont à sa tête n'ont pas préparé ce navire à affronter les tempêtes. Que faut-il faire? L'article fait observer qu'un bon commandant vérifie qu'il y a des gilets de sauvetage à bord et que l'équipage est prêt à fermer les écoutilles en cas de tempête. De même, les responsables de l'organisation doivent veiller à ce que les congrégations aient les moyens d'affronter les tourmentes. L'article annonce donc un changement décisif prenant effet immédiatement. Il demande que dans chaque groupe, on choisisse des anciens qui surveilleront le troupeau. Paragraphe 5, question A. Pourquoi la première mesure relative aux anciens est-elle arrivée au bon moment? Question B. À quelle question allons-nous répondre? Cette toute première mesure relative aux anciens est arrivée au bon moment pour stabiliser les congrégations. Elle a aidé nos frères à tenir le cap au milieu des flots tumultueux de la Première Guerre mondiale. Au cours des décennies suivantes, d'autres améliorations en matière d'organisation nous ont équipés de mieux en mieux pour servir Jéhovah. Quelle prophétie annonçait ces progrès? À quel changement avez-vous assisté? Que vous ont-ils apporté? J'établirai pour toi, comme surveillant, la paix. Paragraphes 6 et 7. Question A. Que signifie la prophétie d'Isaïe 60, verset 17? Question B. Qu'indique le fait qu'il soit question de surveillant et de préposé aux corvées? Comme nous l'avons vu au chapitre 9, Isaïe avait prédit que Jéhovah ferait croître son peuple. Mais Jéhovah a promis plus encore. Dans la même prophétie, il déclarait « Au lieu du cuivre, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, du cuivre. Et au lieu des pierres, du fer. Oui, j'établirai pour toi, comme surveillant, la paix et comme préposé aux corvées, la justice. » Isaïe 60, verset 17. Que signifie cette prophétie? Comment se réalise-t-elle sur nous? Dans cette prophétie, chaque matériau est remplacé par un autre. Remarquez cependant qu'on ne remplace pas un mauvais matériau par un bon, mais un bon par un meilleur. Le remplacement du cuivre par de l'or est une amélioration, et c'est la même chose pour les autres matériaux. Par cette image, Jéhovah annonçait donc que la situation de son peuple irait en s'améliorant. Dans quel domaine? En parlant de surveillant et de préposer aux corvées, Jéhovah indiquait que les progrès concerneraient les soins que son peuple recevrait et la façon dont il serait organisé. Paragraphe 8, question A. À qui devons-nous les progrès mentionnés dans la prophétie d'Isaïe? Question B. Quels bienfaits retirons-nous des changements? À qui devons-nous ces progrès en matière d'organisation? Jéhovah dit « Je ferai venir de l'or, je ferai venir de l'argent, j'établirai la paix. » Si l'organisation des congrégations s'améliore, ce n'est donc pas grâce à des humains, mais grâce à Jéhovah lui-même, qui d'ailleurs se sert de son fils depuis qu'il l'a établi roi. Quels bienfaits retirons-nous de ces changements? Le même verset précise qu'ils apportent paix et justice. L'amour de la justice nous incite à servir Jéhovah, que l'apôtre Paul a qualifié de « Dieu de paix ». Et comme nous acceptons la direction divine et opérons les changements voulus, la paix règne parmi nous. Philippiens 4, verset 9. Paragraphe 9, question. Quel est le fondement de l'ordre et de l'unité qui règne dans la congrégation? Et pourquoi est-ce indispensable? Parlant de Jéhovah, Paul a également écrit « Dieu est un Dieu non pas de désordre, mais de paix. » 1 Corinthiens 14, verset 33. Notez que l'apôtre n'oppose pas le désordre à l'ordre, mais à la paix. Pourquoi? Parce que l'ordre en lui-même ne garantit pas la paix. Par exemple, une troupe de soldats peut se rendre au front en marchant au pas. Seulement, cette façon ordonnée de se déplacer ne débouchera pas sur la paix, mais sur la guerre. Les chrétiens veulent donc se rappeler cette vérité essentielle. Tout système ordonné qui n'est pas fondé sur la paix s'écroule tôt ou tard. La paix divine, en revanche, favorise un ordre durable. Dès lors, comme nous sommes heureux que notre organisation soit guidée et affinée par le Dieu qui donne la paix. Romains 15, verset 33. La paix que Dieu donne constitue le fondement de l'ordre et de l'unité que nous apprécions tant à l'intérieur des congrégations du monde entier. Paragraphe 10, question A. Quelles améliorations notre organisation a-t-elle connues à ses débuts? Question B. Quelles questions allons-nous maintenant examiner? L'encadré historique de la désignation des anciens donne un aperçu des améliorations qu'a connues notre organisation à ses débuts. Mais comment Jéhovah s'est-il servi de notre roi pour remplacer du cuivre par de l'or plus récemment? Comment ces changements ont-ils affermi la paix et l'unité des congrégations? Comment vous aide-t-il personnellement à servir le Dieu de paix? Comment Christ dirige la congrégation? Paragraphe 11, question A. Qu'a-t-on compris à la suite d'un examen approfondi de la Bible? Question B. À quoi les frères du Collège central étaient-ils bien décidés? Entre 1964 et 1971, le Collège central a supervisé un vaste projet d'étude de la Bible qui s'est intéressé, entre autres, au fonctionnement de la congrégation du premier siècle. La note ajoute « Le fruit de ce travail de recherche a été publié dans l'ouvrage de référence « Auxiliaire pour une meilleure intelligence de la Bible ». Fin de la note. On a compris qu'à l'époque, la surveillance des congrégations était assurée non par un seul ancien ou surveillant, mais par tout un groupe ou collège d'anciens. On lit en Philippiens 1, verset 1 « Paul et Timothée, esclaves de Christ Jésus, à tous les saints en union avec Christ Jésus qui sont à Philippe, ainsi qu'aux surveillants et aux assistants ministériels. » On lit en 1 Timothée 4, verset 14 « Ne néglige pas le don en toi qui t'a été donné par suite d'une prédiction et lorsque le collège des anciens a posé les mains sur toi. » Les frères du collège central ont alors pris conscience que leur roi, Jésus, était en train de les guider pour qu'ils améliorent la façon dont le peuple de Dieu était organisé. Bien décidés à se soumettre à cette direction, ils ont procédé rapidement aux changements qui s'imposaient pour que le fonctionnement de l'organisation soit plus conforme au modèle des Écritures. Parlons de quelques-uns de ces changements.
Lecture de l'encadré, il a accepté humblement la correction. L'édition finnoise de la tour de garde du 1er avril 1916 contenait une lettre ouverte de frère Russell à plusieurs frères de Scandinavie, parmi lesquels Kaarlo Harteeva. On y lisait notamment « Nous vous encourageons tous, chers frères dans la foi, à revenir à la vérité et à l'œuvre qui doit être effectuée à notre époque. » Pourquoi cet appel? Né en 1882, frère Arteva était l'un des premiers étudiants de la Bible de Finlande. Il s'est fait baptiser en avril 1910 et à l'été 1912, frère Russell l'a autorisé à publier La Tour de Garde en finnois. Tout s'est bien passé jusqu'à la Première Guerre mondiale. Dans le numéro du 1er décembre 1914 de La Tour de Garde, frère Arteva écrivait « En raison des difficultés économiques, nous ne pouvons pas garantir que La Tour de Garde conservera cette année le même nombre de pages, ni qu'elle paraîtra aussi souvent. » Puis, en 1915, lui et quelques autres ont cherché à collecter des fonds en créant une association appelée Arara, qui s'est mise à publier une revue du même nom. Frère Arteva, accordant toute son attention à la nouvelle association et à sa revue, un autre frère l'a remplacé à la tête de la Tour de Garde. Arara publiait des articles bibliques, mais d'autres aussi à propos de remèdes naturels ou de l'espéranto, langue internationale inventée alors depuis peu. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'Arara détourne l'attention des frères des enseignements clairs de la vérité. C'est à ce moment-là que frère Russell, inquiet pour leur spiritualité, a pressé frère Arteva et ses compagnons de revenir à la vérité. Comment frère Arteva a-t-il réagi? Il a publié la lettre de frère Russell dans Arara, accompagnée de sa réponse. Il y présentait ses excuses, affirmant notamment « Je désire faire tout ce qui est en mon pouvoir pour redresser les choses ». Peu après, dans l'ultime numéro d'Arara, il demandait de nouveau pardon pour le trouble qu'il avait provoqué et ajoutait « Je vais m'efforcer de faire plus attention à tous les aspects de la vérité ». À la différence de certains anciens électifs pleins d'orgueil, frère Arteva a accepté humblement la correction. Plus tard, on lui a de nouveau confié l'édition de La Tour de Garde en finnois et il a été renommé surveillant de la filiale, responsabilité qu'il a assumée jusqu'en 1950. Il a achevé sa vie terrestre en 1957, fidèle à Jéhovah et à la vérité. Assurément, ceux qui se laissent humblement corriger par leur roi Jésus sont affinés et Jéhovah les bénit.
Paragraphe 12, question A. Par quel changement le Collège central a-t-il été concerné? Question B. Expliquez comment le Collège central est organisé aujourd'hui. Le premier de ces changements a concerné le Collège central lui-même. Jusqu'alors, ce groupe de frères Rouen se composait des 7 membres du conseil d'administration de la Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Mais en 1971, le Collège central a été élargi, passant à 11 membres, et a cessé d'être assimilé au conseil d'administration. Aucun de ses membres ne s'estimait au-dessus des autres, et à partir de ce moment, la présidence a été exercée par rotation annuelle, selon l'ordre alphabétique. Paragraphe 13, question A. Quel modèle a été en place pendant 40 ans? Question B. Qu'a fait le Collège central en 1972? Le changement suivant a touché toutes les congrégations. De 1932 à 1972, l'essentiel de la surveillance de chaque congrégation a été assuré par un seul frère. Jusqu'en 1936, on l'appelait « directeur du service ». Puis ce nom a été changé successivement en « serviteur de groupe »,« serviteur de congrégation » et finalement « surveillant de congrégation ». Ces frères ne ménageaient pas leur peine pour prendre soin du troupeau. Cela étant, en général, ils décidaient pour la congrégation sans consulter les autres serviteurs ou anciens. Mais en 1972, le Collège central a procédé à un changement historique. Paragraphe 14, question A. Quelle disposition a pris effet le 1er octobre 1972? Question B. Comment les coordinateurs des collèges d'anciens appliquent-ils la recommandation contenue en Philippiens 2, verset 3? Désormais, il n'y aurait plus un seul et unique frère occupant la fonction de surveillant de congrégation. Par contre, plusieurs frères remplissant les conditions bibliques requises seraient, de façon théocratique, établis anciens. Ensemble, ils formeraient un collège chargé de veiller sur la congrégation. Cette nouvelle disposition a pris effet le 1er octobre 1972. Aujourd'hui, le coordinateur d'un collège d'anciens se considère non comme le plus important des anciens, mais comme un petit. Luc 9, verset 48. Ces frères humbles sont une véritable bénédiction pour la communauté des frères. Paragraphe 15, question A. Quels avantages y a-t-il à ce que les anciens des congrégations soient organisés en collège? Question B. Pourquoi peut-on dire que notre roi a été prévoyant? Le passage à une structure collégiale a constitué un progrès majeur. Mentionnons trois avantages. D'abord et surtout, il aide tous les anciens, quelle que soit leur responsabilité, à être bien conscients que le chef de la congrégation est Jésus. Ensuite, comme le dit Proverbe 11, verset 14, il y a succès dans la multitude des conseillers. Quand des anciens discutent ensemble de questions qui concernent la santé spirituelle de la congrégation et qu'ils tiennent compte des suggestions les uns des autres, ils sont plus susceptibles de prendre des décisions conformes aux principes bibliques. Jéhovah bénit ces décisions qui ont alors du succès. Enfin, pouvant compter sur davantage d'anciens, l'organisation est en mesure de répondre aux besoins grandissants de bergers et de surveillants dans les congrégations. Songez qu'entre 1971 et 2013, le nombre des congrégations dans le monde est passé de 27 000 à plus de 113 000. Quelle prévoyance de la part de notre roi qui a fait en sorte que nous ayons au bon moment les bergers qu'il nous fallait.
Lecture de l'encadré, historique de la désignation des anciens. Nous votions pour les anciens en levant la main droite. Un frère passait dans l'allée pour compter les votes. Sœur Rose Swingle, Chicago, États-Unis. 1881. Pour pouvoir mettre en contact les étudiants de la Bible qui vivent dans la même région, frère Russell demande à ceux qui tiennent des réunions régulières de l'informer de l'endroit où ils se réunissent. 1895. On demande à chaque congrégation de choisir parmi ses membres des frères qui rempliront le rôle d'anciens. 1919. Dans chaque congrégation, un directeur du service est nommé de façon théocratique par le bureau de la filiale. Il est chargé, entre autres, d'organiser et d'encourager la prédication. Certains anciens refusent de soutenir cette nouvelle disposition. 1932. Fin de l'élection annuelle des anciens. Désormais, la congrégation élit un comité de service constitué de frères qui, agissant en harmonie avec le nouveau nom de témoins de Jéhovah, sont des prédicateurs zélés. L'un d'entre eux, sur recommandation de la congrégation, est nommé directeur du service par le siège mondial ou le bureau de la filiale. 1937. Des frères qui appartiennent à la grande foule peuvent faire partie du comité de service aux côtés de leurs frères oints. 1938. Les congrégations adoptent une résolution demandant que les serviteurs de congrégation soient nommés de façon théocratique, ce qui met fin aux élections de type démocratique dans les congrégations.
Devenant des exemples pour le troupeau. Paragraphe 16, question A. Quelles responsabilités les anciens ont-ils? Question B. Comment les étudiants de la Bible considéraient-ils l'exhortation de Jésus à mener paître les brebis? À l'époque des étudiants de la Bible, les anciens étaient déjà conscients qu'ils avaient la responsabilité d'aider leurs compagnons à rester fidèles à Dieu. On lit en Galates 6, verset 10. Ainsi donc, tant que nous disposons pour cela d'un temps favorable, pratiquons envers tous ce qui est bon, mais surtout envers ceux qui nous sont apparentés dans la foi. En 1908, un article de la Tour de Garde consacré à l'exhortation de Jésus « Mène paître mes petites brebis » disait aux anciens « Il est très important que la responsabilité confiée par le maître en rapport avec le troupeau occupe une place de choix dans nos cœurs, que nous considérions comme un grand privilège de nourrir les disciples du Seigneur et de veiller sur eux. » En 1925, la Tour de Garde soulignait de nouveau l'importance pour les anciens d'être des bergers en leur adressant ce rappel « L'Église de Dieu lui appartient et tous devront lui rendre des comptes à propos du privilège de servir leurs frères. » Paragraphe 17, question. Comment l'organisation de Jéhovah a-t-elle aidé les anciens à être des bergers qualifiés? Dans le domaine de l'activité pastorale, comment l'organisation de Jéhovah a-t-elle aidé les anciens à remplacer du fer par de l'argent? En les formant. L'école du ministère du royaume a été inaugurée en 1959. L'un de ses cours était intitulé « Accordons une attention personnelle ». Il encourageait les surveillants à établir un programme afin d'aller voir les proclamateurs chez eux et présenter différentes façons de rendre ces visites pastorales encourageantes. Le contenu de l'école du ministère du royaume a été actualisé en 1966. L'un des cours était axé sur l'importance de l'activité pastorale. L'idée mise en avant était que les anciens doivent prendre soin du troupeau de Dieu avec amour, sans négliger leur famille et le ministère. D'autres écoles pour les anciens ont été organisées depuis. Qu'a produit cette formation continue? Des milliers de bergers qualifiés. Paragraphe 18, question A. Quelle lourde responsabilité Jéhovah confie-t-il aux anciens? Question B. Pourquoi Jéhovah et Jésus ont-ils de l'affection pour les anciens courageux? Par l'intermédiaire de Jésus notre roi, Jéhovah établit les anciens pour qu'ils s'acquittent d'une lourde tâche, guider ses brebis à travers la période la plus critique de l'histoire humaine. Lui et son fils ont une profonde affection pour les anciens courageux qui obéissent à cet ordre. Faites paître le troupeau de Dieu qui vous est confié, de bon gré, avec ardeur, en devenant des exemples pour le troupeau. 1 Pierre 5, versets 2 et 3. Arrêtons-nous sur deux des nombreux domaines dans lesquels les bergers sont des exemples pour le troupeau et favorisent ainsi la paix et la joie dans la congrégation.
Lecture de l'encadré, nous n'en revenions pas. En Asie, un couple de missionnaires a été envoyé dans une congrégation qui n'avait pas enregistré d'accroissement depuis de nombreuses années. Ils y ont découvert que les frères étaient pleins d'amour, mais qu'ils ne suivaient pas les instructions en matière d'organisation. Après avoir gagné l'amitié des proclamateurs, le frère a peu à peu aidé la congrégation à avoir le même mode de fonctionnement que celle du monde entier. Résultat? En 2 ans, l'assistance aux réunions a doublé, le nombre de proclamateurs a augmenté et plus de 20 personnes se sont fait baptiser. « Nous n'en revenions pas », raconte le couple. « Jéhovah nous a bénis surabondamment. » La congrégation a constaté qu'appliquer les instructions de l'organisation divine donne de bons résultats. Cela a rendu tout le monde joyeux.
Comment les anciens font paître le troupeau de Dieu? Paragraphe 19, question. Que ressentez-vous quand un ancien prêche avec vous? Premièrement, les anciens prêchent avec les membres de la congrégation. L'évangéliste Luc a écrit à propos de Jésus. Il cheminait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et les 12 étaient avec lui. Luc 8, verset 1. Comme Jésus avec ses apôtres, les anciens exemplaires sont aux côtés de leurs frères et sœurs dans la prédication. Ils savent qu'ils contribuent ainsi grandement au bon état d'esprit de la congrégation. Que pensent les proclamateurs de tels anciens? Janine, qui approche des 90 ans, confie « Prêcher avec un ancien me donne une excellente occasion de discuter avec lui et de mieux le connaître. » Steven, la trentaine, dit quant à lui « Quand un ancien m'accompagne dans le porte-à-porte, j'ai le sentiment qu'il a envie de m'aider. Cela me fait très plaisir. » Paragraphes 20 et 21. Question. Comment les anciens imitent-ils le berger de la parabole de Jésus? Donnez un exemple. Deuxièmement, l'organisation de Jéhovah apprend aux anciens à se soucier de ceux qui se sont éloignés de la congrégation. Pourquoi les anciens doivent-ils secourir ces éléments spirituellement faibles et comment doivent-ils s'y prendre? Jésus l'a expliqué dans la parabole de la brebis perdue. On lit en Luc 15, versets 4 à 7. Quel homme d'entre vous, avec 100 brebis, en perdant l'une d'elles, ne laissera pas les 99 dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? Et quand il l'a trouvée, il la met sur ses épaules et se réjouit. Et quand il revient chez lui, il convoque ses amis et ses voisins pour leur dire Réjouissez-vous avec moi, parce que j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Je vous dis que c'est ainsi qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Quand le berger s'aperçoit qu'il lui manque une brebis, il part à sa recherche comme si c'était la seule qu'il possédait. Comment les anciens imitent-ils ce berger ? La brebis perdue reste précieuse aux yeux du berger. De même, un chrétien qui s'est éloigné du peuple de Dieu reste précieux aux yeux des anciens, qui le voient comme une brebis perdue et non comme une cause perdue. De plus, comme le berger qui décide d'aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve, les anciens prennent l'initiative d'aller vers ceux qui sont faibles et de leur proposer de l'aide. Que fait le berger quand il retrouve la brebis ? Il la soulève doucement, la met sur ses épaules et la ramène dans le troupeau. Pareillement, par des paroles et des actes pleins de bienveillance, un ancien peut relever doucement une personne faible et l'aider à revenir dans la congrégation. C'est ce qui s'est passé pour Victor, un frère d'Afrique qui s'était éloigné de la congrégation. Il témoigne « Pendant mes 8 années d'inactivité, les anciens ont toujours essayé de m'aider. Qu'est-ce qui l'a le plus touché ?» Il raconte « Un jour, John, un ancien avec qui j'avais été à l'école des pionniers, a pris le temps de venir me montrer des photos qu'il avait prises pendant l'école. Cela m'a rappelé tellement de bons souvenirs que j'ai commencé à avoir la nostalgie de la joie que j'avais quand je servais Jéhovah. Peu après la visite de son ami, Victor est revenu dans la congrégation. Aujourd'hui, il est de nouveau pionnier. Voilà un bel exemple de la manière dont les anciens bienveillants contribuent à notre joie.
Lecture de l'encadré, des visites qui portent leurs fruits. Soucieux des brebis qui s'étaient éloignées du troupeau, les anciens d'une congrégation des États-Unis ont réfléchi à ce qu'ils pouvaient faire pour les aider. Ils ont découvert qu'une 30aine de personnes ayant cessé de servir Jéhovah depuis plusieurs dizaines d'années vivaient dans le territoire de la congrégation. La plupart étaient avancées en âge. L'un des anciens, Alfredo, a entrepris de rendre visite à tous ses frères et sœurs. « Chaque vendredi matin, dit-il, je vais voir un inactif. » Quand la personne est là, il essaie d'avoir avec elle une conversation détendue, au cours de laquelle il lui fait sentir son intérêt sincère. Il lui assure également que la congrégation n'a pas oublié tout ce qu'elle a fait pour le royaume de Jéhovah. Un jour, se rappelle-t-il, quand j'ai dit à un frère âgé combien d'heures il avait prêché et combien de revues il avait placées le dernier mois où il avait rapporté son activité en 1976, il a eu les larmes aux yeux. Alfredo leur lit également Luc 15, versets 4 à 7 et 10, et ajoute « Tu vois ce qui se passe quand une brebis perdue revient dans la congrégation ? Jéhovah, Jésus et les anges se réjouissent, tu te rends compte ?» Voilà 2 ans qu'Alfredo va ainsi vers ses frères et sœurs inactifs. Qu'ont produit ses efforts patients ? Il a eu la joie d'aider 2 frères à renouer avec la congrégation. Ils assistent régulièrement à la réunion du dimanche. La première fois qu'ils sont revenus à la salle du royaume, cela a été à mon tour d'avoir les larmes aux yeux, dit-il avec un sourire. Même s'ils viennent aux réunions, je continue d'aller les voir le vendredi, car ils me disent attendre ces visites hebdomadaires avec impatience, et je dois dire que moi aussi.
Plus unis grâce à une meilleure organisation. Paragraphe 22. Question. Comment la justice et la paix consolident-elles l'unité de la congrégation ? Comme nous l'avons vu au début de ce chapitre, Jéhovah avait annoncé que la justice et la paix ne cesseraient d'augmenter au sein de son peuple. Ces 2 qualités consolident l'unité des congrégations. Comment ? Pour ce qui est de la justice, rappelons que Dieu est un seul Jéhovah. Deutéronome 6, verset 4. Ces normes de justice ne diffèrent pas d'un pays à l'autre. Ces critères du bien et du mal sont les mêmes partout, pour toutes les congrégations des saints. 1 Corinthiens 14, verset 33. Une congrégation ne peut être unie, et donc prospérer, que lorsqu'elle applique les normes divines. En ce qui concerne la paix, notre roi ne veut pas seulement que nous aimions la paix qui règne dans la congrégation, mais aussi que nous y travaillions. Voilà pourquoi nous poursuivons les choses qui favorisent la paix en prenant l'initiative de régler les désaccords qui peuvent surgir entre nous. Romains 14, verset 19. De cette façon, nous contribuons à la paix et à l'unité de notre congrégation. Paragraphe 23. Question. De quoi les serviteurs de Jéhovah se réjouissent-ils aujourd'hui? Quand les frères à la tête de l'œuvre ont annoncé la première mesure relative aux anciens dans la tour de garde de novembre 1895, ils ont également exprimé le souhait qui faisait l'objet de leur prière. Que cette nouvelle disposition aide les serviteurs de Dieu à parvenir rapidement à l'unité dans la foi. Avec le recul, nous sommes heureux de constater que l'affinage progressif en matière d'organisation auquel Jéhovah nous a soumis par l'intermédiaire de notre roi a effectivement consolidé notre unité de culte. En conséquence, les serviteurs de Jéhovah du monde entier se réjouissent aujourd'hui de marcher dans le même esprit, de suivre les mêmes traces et de servir le Dieu de paix, épaule contre épaule. 2 Corinthiens 12, verset 18. On lit en Tsophania 3, verset 9. « Car alors, je changerai la langue des peuples en une langue pure, pour qu'ils invoquent tous le nom de Jéhovah, pour qu'ils le servent épaule contre épaule. » Le royaume est-il réel à vos yeux? Quels progrès ont été réalisés en matière d'organisation sous l'influence du royaume? Comment ces améliorations vous aident-elles à servir le Dieu de paix? Qu'est-ce qu'un ancien a dit ou fait qui vous a rendu plus heureux? Comment pouvez-vous personnellement contribuer à la paix et à l'unité de la congrégation?
Lecture de l'encadré. Comment le Collège central veille sur les intérêts du royaume? Le Collège central des témoins de Jéhovah est composé de frères oints. Collectivement, ces serviteurs de Jéhovah Dieu forment l'esclave fidèle et avisé. Ils ont la responsabilité de fournir la nourriture spirituelle, de donner de l'élan à la prédication du royaume et de diriger cette œuvre à l'échelle mondiale. Les membres du Collège central se réunissent chaque semaine, généralement le mercredi. Cela leur permet de collaborer dans l'unité. Ils appartiennent aussi à divers comités qui veillent chacun aux intérêts du royaume dans un domaine particulier. Voici un résumé de leurs responsabilités. Comité des coordinateurs. Il a la charge des questions juridiques et du recours aux médias si nécessaire, pour véhiculer une image exacte de nos croyances. Il intervient dans les situations de crise, catastrophes, persécutions, etc., pouvant toucher nos frères et sœurs n'importe où dans le monde. Comité pour le personnel. Il supervise les dispositions prises pour le bien-être physique et spirituel des membres de la famille du Bethel dans le monde. Il supervise aussi le choix et l'admission de nouveaux Bethélites, et traite les questions qui concernent le service au Bethel. Comité d'édition. Il gère l'impression et l'expédition de publications bibliques dans le monde. Il supervise les imprimeries et les installations que possèdent les différentes associations utilisées par les témoins de Jéhovah, ainsi que toutes les activités de construction, notamment de salles du royaume. Il s'assure de la meilleure utilisation possible des offrandes reçues pour l'œuvre du royaume. Comité pour le service. Il dirige tout ce qui a trait à l'œuvre d'évangélisation et traite les questions relatives aux congrégations, aux proclamateurs, aux pionniers, aux anciens, aux surveillants itinérants et aux missionnaires. Il supervise aussi, entre autres choses, les activités des comités de liaison hospitaliers. C'est de lui que dépend également la préparation du ministère du royaume. Comité pour l'enseignement. Il est responsable de l'enseignement fourni lors des assemblées et des réunions de la congrégation. Il s'occupe aussi de diverses écoles, telles que l'école de Gilead, l'école pour évangélisateurs du royaume, l'école des pionniers et l'école du ministère théocratique, ainsi que de la préparation de programmes audio et vidéo. Comité de rédaction. Il supervise la préparation de la nourriture spirituelle sous forme écrite ou électronique à l'intention des proclamateurs et du public. Il s'occupe du site web de l'organisation ainsi que du travail de traduction effectué dans le monde entier. Il répond aussi aux questions sur le sens de certains versets et sur le contenu des publications.